Ding dong. Ding dong.
La bande passante.
La bande passante. Alain Pilot.
Architecte sonore Julien Magouarour, on apprécie chez elle son côté élevé aux graines, sa passion pour la pâte à tartiner chocolatée, le quinoa, le tofu, ou pour David Bowie, cette dernière transmise par son père, qui fête son anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire. On estime chez lui son amour pour la musique de Nino Rota que ses parents écoutaient. Chez eux, leur tendre affection pour le cinéma et particulièrement pour Podane de Jacques Demy. Le fait qu'ils aiment à penser avoir réussi quelque chose de très sincère et proche de ce qu'ils sont et de ce qu'ils chérissent, cette recherche de vérité et de générosité très importante pour eux, Alma Jodorowsky et David Baudard de Burning Peacocks. Bonsoir.
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 Alma, en tant qu'adepte de parties de Monopoly petite avec votre sœur, sous l'œil avisé, fatigué parfois de votre grand-mère, vous venez de tomber sur la carte chance et vous avez gagné le droit de nous faire 10 secondes de refrain d'un morceau de Destiny Child ou de Sunshine, Lollipops and Rainbow de Leslie Gore.
Merde, Destiny's Child, laquelle je pourrais faire?
Je peux te faire choisir. Le rythme. Ah ouais, je les connais pas.
Alors ça va être du yaourt parce qu'à l'époque, je connais pas les paroles. I'm a survivor, I wanna make it, I'm a survivor, cause I'm a survivor.
Bravo, vous n'avez pas résisté à votre nouvel album Love Réaction que nous allons découvrir notamment en version bande passante après les infos. Ce sera au salon, ce dont nous vous remercions. Et puis vous ferez sans doute la connaissance d'un label atypique, Habibi Funk, où lorsqu'un DJ allemand décide de rééditer des vinyles d'artistes du monde arabe empreints de musique occidentale dans les années 70 et 80. Reportage de notre envoyée permanente à Tunis, Justine Fontaine. Soyez les bienvenus dans votre maison et sa musique ludique à tous les étages.
Finish.
sont tout excités, nous sommes très fiers puisqu'ils nous offrent une avant-première. L'album sort demain, il s'appelle Love Reaction, Burning Peacocks Games, des jeux d'amour qui peuvent s'avérer dangereux. Quand avez-vous eu envie de jouer de la musique pour la première fois? On commence par les dames. Alma, vous qui aimez jouer depuis toute petite, on l'a déjà plus ou moins compris.
Oui, moi ça commençait par un autre genre de jeu, avec la comédie. Enfin, donc après la musique, c'est venu, je pense, pendant l'adolescence. J'avais eu un premier groupe où j'avais essayé de faire un peu de basse, mais c'était pas terrible. Mmh. Et du coup, comme j'écrivais des textes depuis longtemps, plus sous forme de poèmes ou de petites histoires, depuis que j'étais petite fille, j'ai eu envie d'essayer de chanter. J'ai eu un premier groupe avec un copain. Et puis après, quand David m'a proposé de monter Burning Peacocks, c'est là que ça a commencé à prendre plus de place et que j'ai commencé à avoir de plus en plus de plaisir à faire de la musique.
David ?
La première fois que j'ai dû commencer à jouer de la guitare, ça devait être avec mon père, qui m'a montré les premiers accords que j'ai commencé à jouer en fait tout seul avec une petite guitare. Je jouais aussi avec mon demi-frère qui commençait la guitare en même temps que moi. Donc c'est une histoire familiale que j'ai commencé comme ça, et puis après j'ai commencé pareil à jouer avec des amis à l'adolescence, au collège, à monter nos groupes de rock.
Alma a commencé à en parler. Comment est survenue l'envie de jouer véritablement tous les deux?
Je pense que j'avais écrit pour la première fois des petites chansons tout seul, et j'avais besoin de quelqu'un pour écrire les textes au début. Et je savais qu'Alma cherchait des musiciens, parce qu'elle jouait avec d'autres musiciens, elle cherchait des musiciens, donc je lui ai envoyé les titres que je faisais, et pour lui demander si ça l'intéressait de travailler avec moi, tout simplement.
Et ça vous a intéressé, Alma?
Bah ouais, du coup, ouais.
Qu'est-ce qui vous a intéressé? Qu'est-ce qui vous a intéressé justement? Qu'est-ce qui était bien chez lui par rapport à un autre?
Ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, on se connaissait depuis un petit bout de temps, parce qu'on avait pas mal d'amis en commun, mais sans se connaître vraiment, vraiment. Et j'étais assez intriguée par le fait que David me fasse écouter ce qu'il faisait, tout seul, en dehors du groupe qu'il avait, que je connaissais. Et puis voilà, c'était assez singulier de rencontrer plus quelqu'un par la musique au final, parce que c'est quelque chose qui reste de très intime, et c'est une autre forme de dialogue qu'on a réussi à créer.
Lui aussi vous a intéressé. Il semblerait que d'être produit et arrangé par ce monsieur qui a illustré notamment Un voyage sur la Lune vous provoque dans le ventre des papillons surexcités. Ces papillons que l'on trouve en avril chez vous. Nous les entendrons après les infos, mais pour l'instant, accrochez-vous à ma taille, c'est la chenille qui redémarre.
Un petit peu has-been, je pense qu'on va produire d'autres gens. On voudrait en fait, à travers notre son, à travers nos instruments, toute notre technique, on voudrait en fait transmettre ça à d'autres artistes et aussi modeler peut-être les albums d'autres artistes.
Alors déjà, Has-been, hors du coup, le monsieur derrière qui se cache cette musique, Jean-Benoît Dunkel et son groupe R notamment, ce n'était pas R je vous dirais, donc il est Has-been maintenant puisqu'il vous produit ?
Ah bah non, pas du tout, sinon on n'aurait pas eu envie de travailler avec lui.
Non, après c'est une notion quand même assez spéciale de se considérer comme étant Has-been. C'est une vision des autres, mais là c'est un jugement qu'on a sur soi-même.
Jean-Benoît Dunkel, philosophe selon vos dires, passé régulièrement par la bande avec R, l'un de ses projets solo, Darkel, que l'on entend encore en fond, que l'on a entendu avec Be My Friend en 2006, et puis avec Starwalker au début de ce mix et Holidays, aux côtés de Bardy Johnson en avril dernier. Comment s'est faite votre association Burning Peacocks et Jean-Benoît Dunkel?
Oui, on cherchait quelqu'un pour produire l'album, du coup, et on avait envie de travailler avec... un musicien, quelqu'un qui ne vienne pas forcément du milieu seulement de la production ou du côté plus technique. Ça nous intéressait, je pense aussi parce qu'on est un duo et qu'on est très, on travaille d'une manière assez centrée du coup sur nous deux. Et c'était bien d'avoir un élément qui est une approche déjà qui soit similaire à ce qu'on avait envie de faire en termes de sonorité et puis d'idées poétiques.
Et qui voulait enlever certains voiles de certains de vos morceaux.
Oui, c'est vrai que quand on arrivait en studio avec toutes les démos de l'album, c'était une des premières choses qu'on a pu se dire. C'était que c'était surchargé pour certainement se cacher par pudeur et qu'il avait envie de prendre peut-être la meilleure idée, en tout cas selon lui, sur chacun des titres et la mettre devant.
Est-ce que vous êtes des fans de vinyle ? Est-ce que cet album pourra sortir peut-être un jour en vinyle ?
On l'espère.
On aimerait beaucoup, ouais.
Alors, pour lui, tout est parti de quelques vinyles, des coups de cœur trouvés chez un disquaire de Rabat au Maroc. Depuis, le DJ allemand Yannis Sturz fait des allers et retours entre Berlin et les pays du monde arabe pour compléter sa collection et surtout pour rééditer ses meilleures trouvailles. Il a donné un nom au genre de musique qu'il recherche, Habibi Funk. Habibi, ça veut dire chéri en arabe, mais l'expression désigne la manière dont des groupes et des musiciens marocains, libyens, égyptiens ou encore tunisiens se sont appropriés la musique occidentale dans les années 70 et 80. Le prochain disque réédité par Habibi Funk, qui est aussi le nom du label de Yannis Sturz, est tunisien. Le groupe s'appelle Carthago et Justine Fontaine les a rencontrés en Tunisie.
Cette chanson, Alech, est la première rééditée par le label Habibi Funk l'année dernière. Elle est signée du groupe Dalton, l'ancêtre de Carthago en quelque sorte, des groupes tunisiens qui jouaient dans les grands hôtels du pays dans les années 70. Depuis Berlin, Yannis Sturz, le fondateur du label Habibi Funk, explique pourquoi il s'est intéressé à eux.
Beaucoup de ces groupes, étant donné qu'ils jouaient principalement pour des touristes, pour un public en majorité occidentale, était très en phase avec les genres musicaux à la mode à l'époque, que ce soit la soul, le funk ou le rock. Donc en ce sens, il y a quelques vieux groupes tunisiens des années 70 qui sont vraiment intéressants.
À partir des pochettes, des vinyles et grâce aux réseaux sociaux, Yannis retrouve plusieurs membres de Carthago, des Dalton et du groupe Maraba. Pour reconstituer leur histoire, il contacte même celui qui les photographiait et les suivait partout à l'époque.
Voilà, ça c'est les photos. Ça c'est les Dalton. C'était au Sahara Beach, je me rappelle. Ça c'était au Maraba.
À seulement 17 ans, Hassan Turki pouvait entrer dans la boîte de nuit parce que son père dirigeait l'hôtel Maraba, d'où a tiré son nom, le Maraba Band.
Dans les années 70, il y avait les très grands chanteurs occidentaux qui venaient veiller à l'hôtel Maraba. Il y avait Claude François, il y avait Johnny Hallyday, il y avait Anthony Quinn, je me rappelais, il y avait Sheila, il y avait Carlos, il y avait Johnny, je l'ai cité. D'ailleurs, le groupe Maraba Band, il a joué en première partie du concert de Claude François à Tunis.
À l'époque, James Brown et ses musiciens monteront même sur la scène du Maraba pour une longue improvisation avec les membres du groupe de l'hôtel.
«
Après quelques années, les Dalton et le Baraba Band fusionnent pour enregistrer un album ensemble sous le nom de Carthago. Mais le seul studio disponible à l'époque en Tunisie n'est pas assez moderne, pas adapté à leur musique. Ils décident donc d'aller en France. Fawzi Chekili, ancien guitariste et compositeur du groupe, aujourd'hui musicien de jazz, se souvient.
Pour des raisons en fait économiques, on s'est dit qu'on allait partir à trois. Bon. Il se trouve que moi, je suis multi-instrumentiste. Je joue de la basse, je joue de la guitare, je joue des claviers. Je chante aussi. Donc, je me suis porté candidat pour faire tous ces instruments-là, histoire de ne pas prendre de billets d'avion pour les gens du groupe qui faisaient jouer de ces instruments-là.
De retour au pays se pose un autre problème. Comment éditer l'enregistrement sur vinyle ? Eshmi Miliani, ancien guitariste du groupe.
Les vinyles étaient pressés en Tunisie pour une raison très simple. Il y avait les discours de notre président Bourguiba. Alors, cette maison de disques était dédiée à presser les discours au départ. Donc, entre discours et musique, il y a de la marge, hein. Quand ils ont fait le premier truc, c'était pas ça. Alors on a dû aller sur place, leur dire voilà comment il faut essayer de corriger, mettre plus de basse ici et tout, pour faire le premier master.
À partir de là, Carthago passe à la radio et enchaîne les concerts en Tunisie. Après ça, les hôtels remplacent les groupes par des DJ moins chers. Carthago se divise sur la direction à prendre et finit par se séparer. Aujourd'hui, Fawzi Chekili est musicien de jazz, mais la plupart des membres du groupe ont abandonné la musique. Eshmi Miliani, lui, est promoteur immobilier à Sousse, après tout de même avoir créé et dirigé la plus grande entreprise de cassettes audio en Tunisie, fermée il y a quelques années.
La belle allemande plutôt originale, Habibi Funk, que nous faisait découvrir notre correspondante permanente en Tunisie, Justine Fontaine. À Berlin, vous nous écoutez sur 96.7. À suivre, juste après avoir fait le tour du monde de l'actualité en 3 minutes, un mini-concert de Burning Peacocks. À tout de suite sur RFI, dans la bande passante.
La bande passante.
Musique.
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 Alain Pilot.
Retour de la bande passante sur RFI en compagnie de ce tandem qui voyage en pop, aime bien les choses aériennes mais relevant un peu de l'étrange et qui, s'il avait le pouvoir de changer une chose au monde, interdirait l'utilisation abusive de l'autotune, un logiciel correcteur de tonalité. Rebonsoir Alma, c'est pas mal. Rebonsoir Alma et David de Burning Peacocks.
Rebonsoir.
David dit Papi Chulo lorsqu'il joue dans Kabuko. Ouais. Quel est le dernier totem incroyable sur lequel vous ayez fantasmé ?
Totem incroyable.
Tic-tac.
Ça devait être... Allez, je dirais une super belle guitare. Une Fender Mustang de 64, c'est un super beau fantasme.
Il y a de quoi. Nous poursuivons la découverte de votre premier album Love Reaction, pour lequel vous allez passer au salon, ce dont nous vous remercions. Soyez de nouveau les bienvenus dans votre maison et sa musique d'année tropique à tous les étages.
Butterflies against her chest, bright lights striking her face, explosions on the screen, screams on the scene, April, long in the red coach is waiting.
She's looking around her, waiting for him to sit next to her.
Come and take.
Le disque sort demain, mais Vénard, vous en écoutez déjà un petit passage aujourd'hui dans la bande passante sur RFI. Il s'appelle Burning Peacock, c'est le nom de l'album, c'est Love Reaction. C'est une fille d'Avril, aurait chanté Laurent Voulzy, Avril ou April in English dans le texte. Burning Peacock, c'est cette jeune femme qui est apparemment lâchée par son amoureux. Pourquoi ne pas l'avoir intitulée April ?
C'est un peu comme pour l'album, on mixe français et anglais sur l'album. Le titre, c'est un peu pareil, c'est pour continuer. Ouais. Ouais, pour assumer le fait que voilà, même si on chante en anglais, on a un groupe français.
Fier de l'être.
Ouais, tout à fait.
Avec ce titre donc, Love Reaction, avec l'accent, c'est très important de le préciser. Qu'est-ce qu'une idée de génie en musique ?
Waouh. Il y a des gens qui ont du génie, Stevie Wonder par exemple, je trouve que c'est un génie, mais après une idée de génie...
Qu'est-ce qu'avoir une idée de génie ?
Je sais pas, l'autotune ça pourrait être une idée de génie, mais ça l'est pas, ça, utilisé comme ça en tout cas ça l'est pas.
Je pense que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui reste singulier et qui reste unique dans le sens où ça appartient à une personne, que si ça avait été une autre personne qui l'avait fait, ça aurait certainement eu moins de génie.
Quelle était la journée type d'une session avec Jean-Benoît Dinkel dont on parlait tout à l'heure, juste avant les infos ? Et est-ce qu'il y avait une journée type ?
Ouais, on commençait pas hyper tôt, on se retrouve vers 10h, 10-11h.
Ce qui est tôt déjà pour des musiciens.
Ouais.
On a trouvé un arrangement en tout cas.
Voilà. Et puis après, non, c'était plutôt sympa parce qu'on essayait plusieurs choses dans la matinée. On écoutait pas mal les démos parce qu'on travaille beaucoup avec des démos en amont. Donc on avait des enregistrements qui étaient déjà assez riches, trop riches des fois justement, ce dont on parlait tout à l'heure. Et donc on écoutait ça et puis on essayait de réfléchir à comment renverser un peu tout ça. Et puis après, on faisait une pause. Souvent, on mangeait des sushis.
Quasiment tout le temps.
Pour purifier le corps, dit Jean-Benoît Dinkel.
Voilà, exactement. Tout à fait. C'est une de ses citations. Parce qu'il sort plein de petites phrases philosophiques avec beaucoup d'humour. Donc, moi, j'aurais bien aimé les noter quand même, ouais, parce que j'en ai oublié plein.
On en a oublié plein.
On aurait pu sortir un bouquin. Ouais.
Quelle est la chose la plus importante que vous gardez de cette collaboration avec lui ?
Je pense qu'un musicien comme ça qui a eu un certain succès,
Avec R, je le rappelle.
Il nous a vraiment appris à garder une certaine légèreté par rapport à ce qu'on faisait et pas avoir peur, en tout cas, pas avoir peur de se tromper et vraiment assumer sa folie, en fait.
Le fait de rester dans une recherche, dans un progrès continuel, parce que même lui, avec toute l'expérience qu'il a, il est très, très humble et puis il est... Voilà, il n'a pas peur de se planter, d'essayer des choses et de dire ça, c'était pas bien en fait. Et puis ça, en fait, c'est chouette.
On l'a.
On l'a, ouais, voilà.
C'est ce qu'on disait à chaque fois.
On l'a.
On l'a.
Pour ce disque, vous l'avez, c'est le label Choc Industrie. Et parmi vos camarades d'écurie, on trouve notamment ces artistes.
There is no one there quite like you.
partie de celles et ceux qui font partie de votre écurie qui s'appelle Choc Industry. Mais avant toute chose, vous savez que les Gémeaux et les Pilots sont parano. Vous faites des signes de temps en temps avec les mains. Vous l'avez fait sur le premier morceau de l'émission. Et là aussi, qu'est-ce que vous voulez raconter?
On se dit des trucs.
Ouais. C'est on n'est pas sûr de se comprendre, oui. Hein, d'ailleurs.
Mais on essaie d'y croire, quoi. En tout cas.
C'est sur moi?
Non. Jamais sur les autres. C'est
donc,
sur nous.
Test que l'on entend actuellement avec Love Gun. Il y avait Rubik's Cube, Lobsters and Cherries au début. Lilywood and the Prick avec I Love You. Et puis Anna Zimmer Underwater. Et à l'instant, c'est bon, Test, je viens de le dire, Love Gun. On sent une couleur propre hein, aux musiciens signés sur ce label Choc Industry. Avec lesquels d'entre eux avez-vous des liens plus privilégiés?
On les a croisés pas mal de fois, un peu tous. On a joué avec Anna Zimmer et Rubik's Cube au bain-douche. Mais ça fait un peu comme une grande famille. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas un style musical, en tout cas, qui regroupe tout le monde. Et on serait peut-être un peu les cousins bizarres, en fait, dans cette famille.
Où en êtes-vous de cette idée de tourner en Amérique du Sud, une terre qui aime particulièrement Alma?
Je sais pas que ça avait été évoqué.
Je pense, ouais. Oui, je pense qu'on allait
le
dire.
Non, mais je pense que, oui, en Amérique du Sud, y a pas mal de personnes qui nous suivent. Je pense surtout pas, parce que justement, j'ai des origines familiales qui sont assez enracinées là-bas. Bon, mon père est né au Mexique, il est mexicain, et je pense que du coup, ça les intéresse de savoir ce qu'on fait aussi.
Félix compléanio, hein, papa.
Ouais, voilà, je les aime bien, papou. Et il est au Mexique présentement, au festival de Morelia.
Et il nous écoute là-bas.
Ouais.
J'en suis sûr. En attendant, via la radio du monde, vous allez peut-être vous retrouver maintenant au Mexique dans 2 secondes en vous rendant à notre salon. A connu sa première émotion musicale lors d'un concert des Destiny Child. Si vous étiez là au début de l'émission, vous avez compris. Elle avait 11 ans, elle a reçu une éducation qui lui a permis d'être assez autonome, assez tôt et surtout très libre. Elle n'a jamais eu l'impression de devoir faire un choix dans l'expression artistique. La musique l'a toujours passionnée, presque tous ses amis sont d'ailleurs musiciens. Alors quand David lui a proposé de monter ce groupe avec lui, elle ne s'est pas posé la question. Après, ça a avancé de manière naturelle, en vivant les choses au jour le jour, mais en se donnant à fond, parce que quand on a la chance de vivre sa passion, il faut en profiter, constate-t-elle, pour ne pas mordre la poussière, ajouterai-je. Mais tout cela est cousu de fil d'or, Burning Peacocks, pour débuter ce mini-concert.
Guidons sous les mains maintenant. toi qui le tiens, guidon sous les mains. Maintenant c'est toi qui le tiens. Maintenant c'est toi qui le tiens. Maintenant c'est toi qui le tiens.
Leur pire souvenir de scène fut un concert privé pour une marque dont ils taisent encore le nom à ce jour. Ils ont clairement joué devant 3 personnes, l'organisateur de l'événement, un ami et un photographe. Tous les autres étaient au buffet de petits fours, dos à eux. C'était assez dur, heureusement pour eux, il y avait des bulles à boire avec modération, bien sûr. Il y aura beaucoup plus de monde le 8 décembre aux Étoiles pour fêter la sortie de cet album qui arrive demain. Ce sera à Paris, nous n'en doutons pas. Ce soir, pas 3, pas 30, mais 40 millions de spectateurs, voire même un peu plus, ceux de RFI. Burning Peacocks, Odyssea.
Tu n'as plus à
Laetitia, Burning Peacocks en direct de leur public. Ils disent qu'ils les poussent à se dépasser et à se remettre sans cesse en question. Même s'ils se perdent parfois, ce sera ensuite pour mieux se retrouver. Selon eux, la mode et la musique ont en commun la recherche du beau, avec un grand B à l'instant T, T comme Tears of Lava et B comme Burning Peacocks, pour refermer ce mini-concert bande passante. Tears of Lava, Alma au chant et David à la guitare, électrique aux machines et au chant, le 8 décembre aux Étoiles pour fêter la sortie de l'album Love Reaction. Je rappelle le titre de votre album, donc Love Reaction. Selon vous, l'amour est une réaction chimique, une réaction cutanée ou une réaction inattendue?
Les trois.
Les trois.
Ah oui, quand même.
C'est tellement de choses, c'est difficile de résumer en un seul mot.
Exactement.
Okay.
Déjà trois, c'est pas beaucoup déjà.
Oui, il y en a encore deux.
Je n'ai la place que pour trois. Effectivement, j'aurais pu vous proposer d'autres. Merci infiniment, Burning Peacocks.
Merci à
merci
toi.
Beaucoup.
Alma et David. Love Reaction est sorti chez Choc Industry et vous fêtez donc sa sortie le 8 décembre aux Étoiles à Paris. Fin de cette bande qui repasse donc demain en compagnie de la programmation fraîche et inattendue de Laurence Pierre. Il y aura notamment demain un groupe qui s'appelle Motorama avec Above the Clouds. Et puis merci à Eleonore Santoro, à Soria Loom, à Franck Baudin et à nos ingé-sons Fabien Munuret, Yann Bourdelas et Inoa Khan. Aimez ou réagissez avec la bande sur musique.rfi.fr ou les réseaux sociaux. Dans moins d'une minute, un tas de réactions dans le journal. Salut.
L'atelier des médias.